Salut Campus, il est 18h.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France pour parcourir ensemble l'actualité geek et ludique. Aujourd'hui, nous sommes trois pour animer cette émission. Il y a moi-même François, je suis accompagné de Dominique.
Salut tout le monde.
Et de Reynald.
Bonsoir à tous.
Ça a changé.
Et oui, après 281 épisodes, nous avons changé
l'ordre.
C'est
déjà arrivé que quand Reynald n'est pas là, forcément.
C'est
vrai.
Voilà, je chamboule tout. C'est parce que la technique est en train d'évoluer. J'essaye de connecter la chaîne Twitch, hein, Another-du-bas podcast. Donc, bientôt, un support visuel. Dès que, voilà, on aura l'authentification qui fonctionne.
Ah, attends, bouge pas, je peux répondre.
Petit tour de table habituel, puisque nous allons voir ensemble si nous avons pu faire des activités ludiques qui méritent d'être mentionnées sur ces ondes de Radio Campus, 106,6 FM et DAB+. Dominique ?
Ludique ?
Enfin, ouais. Oh, tout.
Ouais, c'est la misère, parce qu'il y a plein de trucs en ce moment, on l'a dit, les festivals, les expos et tout. Ce week-end, par exemple, il y avait la Maker Faire à Euratechnologie, j'avais prévu d'y aller parce que je fais partie en plus d'un Repair Café où c'était prêt. Je n'ai pas pu y passer parce que, voilà, trop débordé. J'ai réussi tout à l'heure, avant de venir, enfin de venir à l'émission, au début d'après-midi, à passer une petite demi-heure à Solid Art, qui a lieu maintenant tous les ans. C'est la 11e édition. C'est dans la mairie de Lille, où il faisait frais. On était à l'ombre et tout, contrairement à d'autres lieux. Rien que pour ça, ça valait le coup. Ou comme chaque année, au profit du Secours Populaire Français, si j'ai pas de bêtises, bien sûr, j'ai pas les papiers sous les yeux, si, je vais l'avoir. Et il y a plein d'artistes de la région, mais pas que, qui vendent, qui exposent et qui vendent des œuvres. Voilà, donc par exemple, une œuvre qui est vendue 100€, ben, en fait, il y a 50€ pour l'artiste, et il laisse une marge, et le reste, ça va à autre. En gros, c'était une œuvre achetée, un enfant qui part en vacances, c'était un petit peu le slogan. Donc, et en plus, ça permet de découvrir plein d'artistes, de redécouvrir plein d'artistes de la région, dont des gens très doués. J'ai pris, alors comme d'habitude, je suis allé en essayant de garder les mains dans les poches, ben, bon, ça va. Mais j'ai pris plein de cartes de visite ou de scanner de codes Instagram, etc. Parce qu'il y a toujours des gens intéressants à découvrir. Et voilà, c'est à peu près. Sinon, au niveau ludique, c'est plus vidéoludique. La dernière fois, j'avais parlé d'un jeu qui est un mélange de roguelike et de FPS, etc. Ça continue. Sur Steam, c'est la folie. J'ai découvert un jeu, ça s'appelle Tic Tactique, si je dis pas de bêtises. Alors, c'est un mélange de roguelike et du morpion. Je sais pas jusqu'où on va descendre. Il y a des, j'avais testé un jeu, c'est un mélange de roguelike et de Tetris, un mélange de roguelike et de je sais pas quoi. Et là, c'est le tic-tac-toe, en gros, le morpion. Un jeu plus basique que ça, tu connais pas. Mais en fait, si, c'est assez rigolo. Tu joues une partie normale au début, puis à chaque fin de combat, enfin, quand tu remportes la partie, qui n'est pas très difficile au morpion, eh ben tu peux améliorer un petit peu les pièces que tu vas jouer. Tu as des pièces qui explosent et qui détruisent les autres pièces. Tu as une pièce, tu la mets dans un coin, mais elle va descendre à chaque tour, ou elle va bouger, elle va pousser les autres, etc. Elle fait plus ou moins de dégâts, parce qu'en fait, tu te bats contre des joueurs. Et c'est assez intéressant comme mécanique. Ça pourrait être sympa de l'adapter même en jeu de plateau, pour changer un petit peu. Et c'est rigolo. Comme quoi, il y a des mélanges génétiques entre les types de jeux, ça va être très intéressant.
Est-ce que tu vas signer pour le démineur roguelike ?
Est-ce que c'est, je suis sûr que ça existe déjà.
En tout cas, c'est une très bonne idée.
Ça part dans tous les sens. Le roguelike, c'est s'il devait avoir le jeu de l'année, c'est, ou type de jeu, c'est le roguelike, ceci, le roguelike, cela.
Le Belotatro.
C'est un roguelike.
J'ai vu une vidéo ce matin sur un jeu qui va sortir, je crois, cette semaine ou la semaine prochaine, Omelette à Two Cook, qui était un. En fait, tu dois concevoir une omelette, mais sous la même mécanique de jeu que le Balatro. Génial. Et donc, au début, il te dit, voilà, tu fais moi une omelette, mais tu dois arriver à 15 points.
Au début, et,
en fait, l'omelette est déjà là, mais c'est toi qui l'as garni. Et tu dois mettre, par exemple, un poivron qui est, si tu mets de la viande à côté, qui touche le poivron, le poivron gagne 2 points, la viande c'est déjà 2 points, et à la fin, tu as 4 tours, je crois, on te propose des ingrédients. Et si tu arrives à faire ça, tu vas de plus en plus, tu peux choisir des ingrédients.
Ils ont fait ça avec l'omelette. À mon avis, il y avait déjà des mecs qui avaient fait ça avec la pizza. Ils se sont dit, ah, mais c'est déjà pris, on fait l'omelette.
Après, ça avec le ramen, après, ça avec plein de trucs.
Exactement.
Mais ça avait l'air intéressant.
J'avais vu. La dernière fois qu'on avait reçu les gars du flan, il y en avait l'un des deux nous avait parlé, il était fan de Balatrouille. Si on l'avait pas arrêté, il était parti pendant une heure. Et comme il aime bien les jeux de mots et nous, j'ai pensé à lui en voyant l'autre jeu. C'est le même principe que le Balatrouille, mais avec le Scrabble. Tu joues au Scrabble, tu fais des mots, ça s'appelle World, j'ai plus le nom, mais. Et tu fais des mots comme au Scrabble, tu marques des points, c'est vraiment une grille de Scrabble, hein, sauf qu'ils n'ont pas pris le nom parce que ça doit être déposé. Et à chaque fois, tu améliores, tu as des pièces qui peuvent bouger. En fait, tu vois, à chaque tour, tu mets des mots, puis tu récupères des lettres, et tu peux améliorer tes lettres en gagnant. Un petit peu comme à Balatro, tu as un objectif. Tu dois marquer 15 points, puis 30, puis 5, et ça augmente, et c'est de plus en plus dur, et tu dois marquer des points comme en règle du Scrabble. Donc c'est comme quoi c'est la folie quoi.
Le Fun Lab des auteurs du Nord que nous recevrons à nouveau dans 2 semaines.
Dans 2 semaines, c'est bien ça, le 29.
Pour parler de l'édition de jeux de société cette fois-ci.
J'essaie désespérément de me connecter à Internet, mais on va y arriver.
Moi, ça y est, c'est lancé. Le Twitch est opérationnel. Et je pense qu'on a un spectateur qui est lui-même dans le studio.
Et voilà, qui vient de dire bonjour. Et il y a Pierre-Yves.
Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites remonter, Reynald ?
En fait, moi cet après-midi, pareil comme Dom, j'ai profité de la chaleur ambiante pour aller faire un tour et voir l'exposition de François Andès au couvent des Dominicains à Lille, qui est 7 avenue Salomon. Alors quand tu dis 7 avenue, c'est une route, hein, c'est pas une avenue, mais bon. Et déjà, il y a le parc du couvent des Dominicains qui est juste à côté où on peut se balader.
C'est du côté Saint-Maurice-Pelvoisin
Saint-Maur, bref. Donc juste à côté de la station de tram de Saint-Maur, et vraiment à côté, hein, 5 minutes à pied même pas, ou à 15 minutes de Saint-Maurice-Pelvoisin si vous voulez faire une petite route. Donc François Andès, dessinateur, vidéaste, enfin un peu de tout. Il touche
artiste.
À tout. Artiste complet.
Voilà. Multitalent.
Et le couvent dominicain, alors là, c'est...
C'est un vrai couvent.
Un vrai couvent, avec des vrais dominicains qui te parlent, et qui t'accueillent, qui te disent où est-ce que tu peux aller, etc. Mais surtout, comme tu disais pour la visite, au frais.
Génial.
Ah, c'était le bien-être absolu. Après,
je vais aller voir la clim, Dominique, vas-y.
Voilà,
mais ça me fait penser à un autre lieu, hop, j'en profite, dans le même lieu, un style religieux, quand vous allez à la Treille, la Treille, quand vous passez un petit bois, il y a un lieu qui s'appelle... c'est une salle d'exposition. C'est une galerie géante, presque un musée. Et qu'est-ce qui fait frais dans l'hécatombe ?
Waouh ! Ah, bien sûr. Là, tu profites.
On
vraiment,
va noter les lieux en fonction du frais, de la fraîchitude.
Mais là, le François Mendès avait fait une exposition, surtout au niveau dessin et peinture, sur sa vision l'enfer de Dante par rapport à l'Amazonie, si je ne me trompe pas, qui était alors sa vision personnelle.
Pas du tout frais, par contre, l'Amazonie.
Voilà. sa vision personnelle sur l'enfer et le paradis que représente ce lieu, où tu peux avoir en même temps, dans le même lieu, quelque chose d'horrible,
des
quelque chose de super beau.
Et en fait, la fleur, elle te tue, quoi.
Et. C'est pas forcément une exposition qui m'a vraiment touché, parce que bon, chacun touché par rapport à son art, hein, voilà. Par contre, il y avait de belles pièces bien colorées, où des fois, il y a eu 3-4 tableaux, où je me suis demandé si c'était pas accroché à l'envers, mais c'était fait exprès, parce que il y avait quelques détails qui te montraient que le tableau était bien à l'endroit, et donc ça titillait les neurones en disant, mais il y a un truc qui me dérange, et au moins l'œuvre a réussi à faire cet effet. Il y a de belles pièces. Ça, en tout cas, c'est ouvert jusque le 22 mai, donc il reste dimanche prochain, et c'est ouvert du vendredi, samedi, dimanche, à partir de 15h30 jusqu'à 18h.
C'est compliqué, oui.
Et c'est bien sûr l'entrée gratuite. La personne qui m'a accueilli, très sympa, très gentille, permet de visiter, si c'est la première fois que vous allez sur le site, vous permet de visiter l'église.
Est-ce qu'il n'y a pas un joli parc aussi ?
Oui, le parc est juste à côté. Il y a deux entrées. Il y a l'entrée du parc,
c'est ça.
Qui vous dit allez-y, let's go, faites-vous plaisir, vous pouvez vous promener, quand c'est ouvert, il n'y a aucun problème. Et 20 mètres plus loin, il y a l'entrée du couvent qui là, il suffit de sonner ou si la personne ne vous voit pas arriver, vous ouvrez tout de suite la porte.
Là, c'est vrai, je le parc je connais un peu, mais...
Et en tout cas, une personne très accueillante, très bavarde, qui n'hésite pas à vous dire, allez voir à tel endroit, c'est à 30 secondes, refaites un petit détour de 30 secondes pour aller voir tel lustre qui est fait par un art designer de machin, bidule. Alors, si t'es à fond dedans, tu découvres des trucs...
Soit être un lieu reposant en plein milieu de la ville.
Enfin, même si oui. Et non, mais en tout cas, ça permet, permet de passer un bon moment. Malgré que bon, il y a trois quarts des peintures et des, et des dessins ne m'ont pas forcément touché. Mais c'était une très très bonne visite.
Et tu n'as pas touché au dessin non plus.
Ah non, par contre j'ai pris quelques photos bien sympathiques.
Alors, bah écoute, on va, ça sera aujourd'hui où on va lancer le sujet sur la table. Pourquoi François Andès?
Et pourquoi pas?
Pourquoi pas?
Bah voilà, réponse, c'est fait.
Puisqu'à la base, donc, c'est un artiste de Fâche-Thumesnil.
Oui, qui est né, enfin, qui travaille à Lille.
Et nous sommes en train, donc, actuellement de monter un festival qui aura lieu en octobre. Donc, vous pouvez commencer à noter sur votre agenda le 11 et 12 octobre. Et François Andès sera invité pour notamment faire... une exposition au sein de cette salle Jacques Brel, qui est située donc à Fâche-Thumesnil. Le thème va être de... c'est un peu le thème de l'exposition ici, hein, un peu l'enfer.
L'enfer de Dante.
Voilà.
Par rapport à la... Bah déjà que Dante a sa propre vision des enfers, qui est un peu métaphorique.
Le
voilà. Et donc après, si toi tu réinterprètes par-dessus, tu peux arriver à des choses complètement what the fuck. Ça peut être sympa.
Donc on a fait les premiers repérages dans la salle. À voir où est-ce qu'on va mettre exactement cette exposition, puisqu'il y a une deuxième exposition qui sera présente, voilà. Et on peut déjà l'annoncer. C'est l'anniversaire de l'Amiga cette année. Donc... Made in Pixel.
Est-ce que c'est pas l'anniversaire chaque année? Sauf que là, c'est un chiffre rond, hein, voilà.
Peut-être.
C'est le principe d'un anniversaire, après tout, hein, d'être chaque année, non? Je sais pas.
Fenrix.
Ça, en fait, c'est dès que tu as une date où tu peux fêter. L'anniversaire des 6 mois, des 9 mois, des 1 an.
Après, tu commences à commémorer les anniversaires et là, ça devient n'importe quoi.
Voilà.
Fenrix de...
Oui, donc tu vois, les anniversaires, ça, c'était fait ça.
Fenrix de la chaîne Made in Pixel prend un peu en charge tout ce qui est partie jeux vidéo, donc avec l'exposition Amiga, avec des bornes de test, avec plein de démos. On est en train de remplir cette salle avec du jeu vidéo, avec beaucoup de jeux de société, puisque le Fun Lab, le Flan, va nous proposer plein de démos de nouveaux jeux. D'autres éditeurs seront là, des créateurs de jeux de société. Des associations de Fâche-Thumesnil, voilà, on va développer ce sommaire au fur et à mesure de l'année, puisqu'il nous reste encore quelques mois pour remplir cette fiche d'invités. Mais vous pouvez déjà noter la date, et nous travaillons sur une collaboration avec Radio Campus pour faire un petit événement en live. J'en profite, hein, on fera un courrier au CA. J'en parle en amont à la radio.
Je mange les notes, chose à faire.
D'autres petits événements, Dominique, à dénoter?
Sûrement. C'était compliqué. Non, j'ai pas eu le temps de faire grand-chose. J'avais noté plein, mon agenda était blindé, comme la semaine prochaine et sans doute dans deux semaines, etc. Mais comme par hasard, j'ai eu le temps de faire un ou deux trucs et encore en vitesse. Mais...
J'avais prévu également, comme toi, de me rendre à la Maker Faire, notamment pour voir Ben de Mémoire Morte.
Oui, exact.
Puisque lui faisait un bel atelier de réparation également de micro-ordinateurs. Et voilà, on a séché malheureusement cette
On va faire un agenda des trucs qu'on n'a pas eu le temps de faire. J'ai découvert au dernier moment que dans le cadre de Lille 3000, la fiesta, il y avait ce week-end, c'était Lille Oujda, en rapport avec la ville marocaine. Oui, je ne vais pas me fâcher avec la moitié de... et il y avait plein de, depuis vendredi, aujourd'hui, hier et aujourd'hui, plein d'événements dans la métropole, dans tous les quartiers, etc. Ça a l'air très intéressant, avec plein d'ateliers. Mais bon, voilà, les trucs qu'on n'a pas fait, c'est terrible en ce moment. Voilà.
Moi, il y a également beaucoup de choses que je n'ai pas faites, puisque j'ai tenu cette petite promesse que je me suis fait ce dernier dimanche, lorsqu'on s'est croisé.
Non.
Effectivement, j'ai J'ai craqué, voilà, c'est ce qu'on appelle un craquage en
bonne uniforme. Tu n'as pas attendu les soldes Steam ou autre pour
Non, il n'était pas prêt d'être soldé. Non. Et il faut dire qu'à coup de streamer renforcé ici, une attaque qui a permis de faire de nombreuses ventes et donc de nombreux joueurs sur le jeu Dune Awakening, le MMO dans l'univers de Frank Herbert.
Ah oui, bah parmi les streamers, hein, voilà, un qu'on connaît, qu'on a déjà reçu, Adrien, alias Illisur, qui joue. J'ai pas eu le temps d'aller, j'allais lui dire, ah, c'est toi qui joues à Dune Awakening, mais j'ai pas été méchant à ce point-là. Ben il s'accroche toujours, hein, je crois.
Il n'était pas tout seul. Alors, ouais. C'est très prenant, puisque dès que vous êtes pris dans cette mécanique d'aller farmer un petit peu pour construire votre prochain distille, pour
qui vous permettra d'aller plus loin pour chercher d'autres ressources pour construire
un autre par contre, voilà.
J'étais avant de partir pour aller au couvent, j'ai eu un petit twitch en même temps que je mangeais.
Ouais,
et justement,
non.
Non, pour que je vous
ça fait bizarre ton
ouais, quand je dis ça,
pour les gens qui prennent à ce moment l'émission. Non,
en fait, je reste dans l'émission, il n'y a pas de problème.
Il faut retirer au couvent.
Sur un jeu. Et donc, le streamer discutait avec d'autres personnes et en disant que il voyait le MMO de Dune qui vient de sortir, surtout sur le côté fin de game. Le jeu, ouais. Le fin de jeu, qui est quand une fois que tu as tout fait, qu'est-ce qui te reste à faire et est-ce que les développeurs ont prévu justement pour ça. Et il paraîtrait-il que quand tu auras fait 150 heures de jeu et que tu serais enfin arrivé au endgame sans te faire bouffer par les vers de sable, etc., qui vont tout recommencer, que c'est une tuerie, il faut tout prévoir, il faut y aller, il faut foncer. Mais il a donné aucune annonce.
Non, alors, il y a un côté politique, puisque vous allez avec votre guilde.
Oui, bah, il y a des alliances quand même, ça fait partie de l'univers de Dune. Enfin, des alliances
avec les maisons.
Soutenir des maisons, on lance Drad, etc. Donc, sur le papier, il y a cette promesse qui est.
Quoi
comme il vient
tu
de l'annoncer.
Un MMO qui sort avec des promesses sur le papier qui éventuellement seraient tenues ou pas.
C'est pas ça, c'est du endgame.
Donc, ouais bah, ça craint rien.
On est au early game là pour l'instant.
Oui, attends, mais sauf que à chaque fois qu'il y a un MMO qui sort,
très lent quoi.
Chaque fois qu'il y a un MMO qui sort, t'as toujours des joueurs ou des guildes qui hop, qui en 3 jours torchent tout le truc et arrivent au niveau max et tout et disent, et qui arrêtent et disent bon, il y a plus rien à faire, j'arrête. Mais bon.
Il y a tellement de serveurs. Dans chaque serveur, tu as plusieurs sites, donc c'est plusieurs mini serveurs sur lesquels en fait tu croises pas forcément grand monde.
Ouais.
Donc pour faire cette tractation politique, à un moment il va falloir faire un merge de tous les serveurs, mais sachant que les bases vont être au même endroit.
Comment ça va se passer ? Est-ce qu'il y aura une espèce de monde contre monde ou de serveur contre serveur ou je sais pas quoi.
Ça va être un bordel sans nom.
J'avoue que.
En tout cas, voilà. Pour ma part, j'ai pris un serveur peu peuplé, donc c'est vrai que je croise pas forcément grand monde.
Pour l'instant.
À voir si ça
on va. Après, tu seras peut-être plus développé que ceux qui arriveront.
Là, tu t'inquiéteras quand ils annonceront une fusion des serveurs. Là, tu vas pouvoir commencer à t'inquiéter.
En tout cas, plus de 700 000 ventes.
De vétérans de MMO.
Pour le MMO de Dune, des serveurs qui ont plutôt bien tenu la charge.
700 000 ventes à 50 balles.
Ouais, ils ont investi.
Mais le jeu a du coup été. Bon, après, oui. On le rappelle, c'est le nom de la boîte de développement.
Oui.
Voilà, toi aussi, t'as oublié. Attends, c'est celle qui a fait Conan avant. Voilà.
Ah, Conan Exile.
Je n'ai plus le nom du éditeur.
Qui ont fait les deux Conan.
Voilà. Mais François, t'as un trou sur ce nom-là. Ça m'inquiète.
J'ai un expert.
Funcom, merci.
De rien.
Voilà, bonne réputation.
Age of Conan était un des meilleurs MMO.
Voilà, donc
à voir. En tout cas, je l'ai déjà répété 100 fois, une ambiance qui est là, de Dune.
Et en 2022, j'avais fait Dune Spice Wars.
Oui, parce que le jour...
Fait par des Français, Spice Wars.
Il y a quelqu'un qui me pose la question, est-ce que c'est un jeu qui est tiré du film ou des romans? Enfin, c'est plus les romans, parce qu'il y a...
Alors, c'est les deux, puisque le film est tiré du roman. Alors, alors je vous fais le spoil, puisque c'est l'intro, en fait.
Ouais.
C'est un... Comment on dit si la réalité... Enfin, c'est une réalité...
Une chronie ou un truc comme ça.
En gros...
Une dystopie.
Jessica Trade n'a pas eu d'enfant garçon, puisque c'est là un peu tout pitch de Dune. Paul Atreides naît, elle devait faire naître une fille... pour que la prochaine lignée soit le Quetzalcoatl. Là, dans le livre de Dune, elle fait tout de suite un garçon. Donc, est-ce que ça sera lui, l'élu, le messie?
Et qui choisira son genre plus tard?
Ici, dans cette réalité de Dune Awakening, Jessica fait une femme, donc il n'y a pas de Quetzalcoatl. Et nous sommes là. Les Harkonnen, les Atreides,
donc, voilà.
Les Atreides n'ont pas été décimés de Dune.
On est dans l'univers Dune, créé par Frank Herbert. Et
mais sur une réalité alternative.
Okay, on va pas creuser les personnages qui ont le visuel des...
On va les croiser, mais par exemple, le duc Leto Atreides est mort. Hein, désolé, je vous spoil le film ou le livre. Mais ici, non, les Atreides sont toujours vivants, les Harkonnen aussi. Et il y a une guerre de Khanli sur la planète. Voilà, on a l'impression de jouer au jeu de Dune des cartes, Dominique. Ça te donne pas envie de venir farmer avec nous?
Ouais, non. Et puis, il y a des jeux.
Je viens de passer un quart d'heure à dire que j'avais pas le temps de faire tout. Alors, t'imagines?
Puis t'as des jeux qui se développent malgré leurs 11 ans d'ancienneté, qui se développent vraiment bien.
Ouais.
Ils ont des bons développeurs, ils ont des bonnes idées de scénaristes. Donc, ils continuent à m'accaparer.
Par jour. Hein.
Donc, non, ça va être chaud pour trouver un autre jeu.
Il y a que 24 heures par jour, les gens.
Je garderai une petite musique de Dune pour la fin de l'émission. Mais entre temps, Dominique, on va faire un hommage.
Ouais.
Musical.
Oula.
Je propose de parler de Brian Wilson.
Que dire, qui n'a pas été dit. Oui, fondateur, créateur et génie parfois incompris des Beach Boys. La musique de surf. Ah, c'est pas eux qui ont inventé la surf musique, mais ils l'ont bien balancé. Et il a eu une influence importante, puisque c'est la fameuse anecdote comme quoi ils ont sorti leur album Pet Sounds, qui était vraiment un expérimental, tout en restant dans la... C'est ça qui est étonnant, t'écoutes, c'est de la surf musique, tu dis, c'est la musique pour les ados qui dansent sur la plage, etc. Mais en fait, quand tu écoutes vraiment les morceaux, tu vois à quel point c'est travaillé, et même d'un point de vue technique, il utilisait des nouveaux instruments, des nouveaux modes d'enregistrement en studio et tout, c'était une avancée. Et donc, t'as Paul McCartney qui a dit, on a entendu ça, on lui dit, oh putain, faut qu'on monte notre niveau, et c'est de là qu'elle est, c'est ce qui a provoqué la naissance de l'album Sgt. Pepper, qui après, Brian Wilson dit, oh, putain, il écoutait Sgt. Pepper, oh, putain, les salauds de British, faut que je monte mon niveau aussi. Comme quoi, il n'est pas très très connu en fait, mais il a eu une influence.
J'écoutais donc un morceau avant l'émission pour préparation, puisqu'on prépare cette émission. Oui, Rénal, je vois ton regard.
Parce que c'est difficile de savoir, tu peux passer les classiques, hein, mais il y a.
Et mon petit qui connaissait pas les Beach Boys, mais qui connaît les Beatles, t'a dit, ah, c'est les Beatles? J'ai fait non.
C'est la même époque. Oui, ils se sont auto-influencés, quoi. Mais...
Comme quoi, ils ont surfé sur la même vague, hein, comme pourraient dire les Beach Boys. Alors, tu parlais justement de cet album mythique, c'est pour ça que je n'ai pas pris celui-là. J'ai pris un album de 2012, puisque jusqu'à 2012, les Beach Boys étaient encore actifs sur la scène, même s'ils ont changé beaucoup de fois de membres.
Actifs.
Mais Brian...
Oui, il est en fauteuil roulant, donc il est moins actif.
Brian Wilson... Le titre que nous allons prendre, c'est Daybreaker Over the Ocean. Des Beach Boys, du coup. The Beach Boys.
Les garçons de plage. Free man.
Still on the sea, will the waves' gentle motion bring my babe back to me? And the stardust sprinkles the morning. Venus fades from my side. Will my love be returning like the sun? To brighten up my life, and as day breaks over the ocean, moonlight still on the sea. I pray the waves' gentle motion will bring my baby to me. Feel lonely.
We'll soon be together, never to depart. And as long as there is an ocean, long as stars are to shine, baby, you will always have my devotion. I'll love you pretty, baby, till the end of time. And as day breaks over the ocean, moonlight still on the sea, I'll pray the waves' gentle motion will bring my baby to me.
The Beach Boys avec Daybreak Over the Ocean. Tu veux un micro, Reynald ?
Avec un micro, c'est mieux. Ouais. Je disais que ça s'est écouté tranquillou. C'était bien.
Ouais, ça va bien. C'est de la surfing lent. Mais ce que j'ai. Enfin, les Beach Boys, si, c'est un des rares groupes américains. Enfin, la surf music, ça m'a. Je sais pas pourquoi, oui, ça me touchait. Quoi. Mais c'est les voix trop aiguës. Au bout d'un moment, je pouvais pas écouter en boucle un album complet. Une ou deux morceaux, ça va, mais ça allait trop.
Et, bah, tu fais un Beach Boy, un Bee Gees.
Putain, alors là, c'est.
Le Beach Boys te semble un peu comme un. Ah oui, c'est un 45 tours avec du 33.
Non, mais je parle de l'aigu des voix, quoi. C'est bon. Bah, oui, c'est vrai. En plus, il y a un petit côté BG, enfin, au niveau des voix, pas féminines, mais très, très aiguë des chanteurs.
Alors, nous étions, puisque vous avez dû le voir, hein, si vous êtes sur la chaîne Twitch, Another-Bas Podcast, nous étions absents du studio pendant cette chanson, puisque nous étions en train de continuer le tour de 3000 truands, un jeu de société ici. Créé par Kore Konieska, un jeu qui m'a attiré tout d'abord pour ses illustrations. Qui sont...
Ouais, puis la boîte fait un peu vintage, c'est rigolo.
Et la boîte, c'était plus grande que je l'imaginais. Voilà. 3000 truands, un jeu ici de bluff, d'achat et de bluff.
Il y a tellement d'actions différentes que...
Alors, ici, vous allez incarner un chef de bande. Vous êtes à la tête d'une bande de truands.
Dans le western.
Effectivement, oui. Ici, on est bien dans le western. Merci de préciser, puisque tout le monde n'a pas forcément le visuel. Et il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Un voyageur a laissé des coffres qui renferment plusieurs objets assez mystérieux et des fois un peu futuristes. Et avec votre gang, vous allez essayer de récupérer ces objets.
Avant que les shérifs arrivent, voilà. Pour les récupérer.
Et aussi avant que les autres gangs mettent la main dessus, puisque ici, c'est un jeu, non pas de coopération, mais de baston, puisque vous allez devoir aller piquer les coffres avant les autres. Mais comme les coffres sont face cachée, ici, il va falloir d'abord les regarder avant de les prendre. Et lorsque vous regardez un coffre, vous allez devoir mettre un pion dessus pour estimer un peu sa valeur, sachant que si vous mettez exactement la valeur du coffre, dès que vous allez le prendre, vous allez avoir un bonus de points. Du coup, est-ce que vous misez sur remporter ce coffre et du coup avoir le bonus de points, donc vous mettez la valeur exacte, ou est-ce que vous allez bluffer en disant quelqu'un va le prendre à ma place ?
On va essayer de le piquer. Si tu mets une grosse valeur en disant comme ça, quelqu'un va croire que j'ai mis cette valeur-là parce que c'est la bonne valeur, va le vouloir. Donc dans ces cas-là, je truande. Et à l'inverse, mettre une très petite valeur pour dire c'est un coffre de merde, moi je n'y toucherai pas. Et donc, personne ne le prendra, alors que toi, tu le prends parce que ce coffre, justement, a une grande valeur. Ça oscille entre ces deux cas-là. Et jusqu'au, c'est un coffre moyen, donc je mets une valeur moyenne et personne ne le prend, mais c'est tentant.
Donc là, on a fini le tour, on ne l'a toujours pas révélé, Dominique. Prenons un petit exemple. On a tous récupéré un coffre, là.
Ouais.
Voilà. Est-ce que vous avez... On a tous récupéré un coffre dont nous avions indiqué... la valeur nous-mêmes.
J'ai pas regardé la valeur du coffre que
j'ai. C'est vrai.
Ah non, j'ai pas encore regardé.
Ah oui, t'as pas pris un coffre où il y avait un pion dessus, non, effectivement.
J'ai pris un coffre inconnu.
D'accord. Toi, tu as récupéré un coffre avec.
J'ai récupéré le coffre de un de tes pions, il me semble.
T'avais mis 5.
Ah non, du tien.
Non, non, moi j'ai pas pris le mien.
T'avais mis 5.
Ah merde, moi je voulais prendre le mien.
Ah dommage. T'as pris le mien. Donc... T'as pris le mien. Oh, t'es mal.
Il y a une erreur.
Erreur. Et voilà, c'est un jeu de mémoire aussi, on voulait pas dire.
Alors que chacun, on a chacun notre couleur, mais c'est un jeu de mémoire, t'inquiète.
Bon, je crois que je me suis fait avoir. Et pour faire vos actions, ici, vous allez jouer des cartes de poker, mais vous ne devez pas forcément jouer la bonne carte, puisque vous pouvez...
Ah, t'as pas le choix. Vous
allez dire, voilà, je joue l'as, mais vous le faites face cachée, donc vous pouvez également bluffer sur la valeur que vous avez mettre, sachant que chaque valeur de carte va débloquer des actions.
En plus.
Des actions de personnages, des actions de jeu, vous allez pouvoir regarder les coffres, voler de l'argent, etc. Et plus la partie avance, plus avec des dollars, vous allez pouvoir recruter des trucs.
Tu te construis une petite machine, quoi, une machine à points. C'est un engine building, comme on dit en bon français.
Mais c'est justement là d'où le titre 3000 truands, dans ce que François va montrer sur la caméra pour ceux qui sont sur Twitch. C'est que tu as des cartes de truands qui sont à moitié complètes.
Donc ils sont en pyjama.
Le matériel, oui.
La carte du truand est à moitié complète. Pourquoi ? Parce qu'on va lui adjoindre dans une pochette sleeve une carte transparente sur laquelle on met la moitié des informations manquantes.
Donc ça fait...
Et ce qui fait que ça va faire, si tu fais toutes les combos, ça fait plus de 3000 truands possibles.
Une profession et un qualificatif. Et la profession a des actions, il y a des infos sur la carte. Et le qualificatif que tu rajoutes te fait une carte complète avec d'autres actions. Et ça change le coût de la carte. Et des fois, ça donne des noms rigolos. Mais c'est une mécanique assez rigolote.
Voilà, il y a ce côté rejouabilité, puis le fun, hein. De pouvoir cumuler deux truands et puis ça fait des noms.
Puis au niveau édition, ça évite de faire des milliards de cartes, toutes les combinaisons possibles. Là,
je viens de cumuler un médecin menteur.
Ah, donc il y a la partie médecin qui rapporte qui coûte un certain coût, qui fait des trucs, et la partie menteur qui rajoute des bonus.
Ce médecin menteur, après avoir placé sur un coffre un jeton d'une valeur, un jeton d'une valeur impossible sur ce site.
Puisque chaque site, il y a trois sites sur le plateau de jeu qui possèdent des coffres. Donc chaque site est de couleurs différentes, pour ne pas se tromper. Et un site a des coffres allant, par exemple, de 2 à 7. Un autre site va des coffres de 3 à 5. Et un autre site va des coffres de 4 à 7.
Si vous mettez donc une valeur qui ne peut pas être sur ce coffre, vous gagnez 3 dollars. Et vous recrutez le truand au-dessus de la défausse.
Il y a tellement de combos. J'ai parcouru vite fait une interview du créateur, donc Auric Cunicia, sur le site philibert.com. Si vous allez sur la fiche du jeu, et dans le blog, il y a un article et une interview du créateur qui parle un peu. Le jeu s'appelait Bluff Kingdom, au départ. Enfin, c'était le nom de prototype, et il a adapté sur un univers un petit peu Far West alternatif. Il s'est inspiré aussi de Borderlands 3, le jeu vidéo qui est aussi dans une espèce, c'est pas du Far West, mais il y a un petit côté Far West, etc. Il s'est aussi inspiré de Retour vers le futur, mais effectivement, pour la partie, le livre est très rendu comme quoi le design, l'univers d'un jeu, comment on appelle ça, le lore peut jouer. Mais, c'est, alors il y a, J'avoue que quand tu expliquerais, t'as l'impression que tu... Alors déjà, le jeu prend de la place un peu sur la table.
C'est un peu grand.
C'est un peu grand, parce que chacun a son plateau, et il y a le plateau du milieu.
Et le seul truc que t'aimerais avoir en grand, c'est tes cartes de poker, et elles sont toutes petites.
Ouais. Et j'aime bien les designs des personnages, la lisibilité de certains pions. En fait, tu commençais à expliquer là, oula, il va y avoir des règles partout, il va nous passer une demi-heure, mais en fait, non. Tu expliques un tour de jeu. En fait, il faudrait presque expliquer en faisant un tour de jeu...
En fait, c'est les cartes truands qui te rajoutent, sans forcément te complexifier, mais qui te rajoutent des petites actions supplémentaires. Par exemple, pour le même carte poker qu'on va chacun jouer, si on joue la même, on n'aura pas forcément les mêmes actions parce qu'on va avoir des truands qui vont les modifier. Plus ou moins, tu as intérêt de dire cette action-là me plaît parce que je vais faire plein de choses avec, mais je n'ai pas la carte poker qui va. Donc, je vais mentir sans le montrer, je vais mettre ma carte poker face cachée pour la déclencher. Et à ce moment-là, les autres joueurs vont pouvoir se dire est-ce que lui, il ment ou il ment pas ? Parce qu'il avait fait la partie.
Il a joué la veille cette carte-là. Est-ce qu'il a une deuxième point ?
Le tour d'avant, il l'a refait. Ouais. Donc, je pense qu'il ment. Et on peut essayer d'aller mettre nos pions sur sa carte pour dire je pense que tu bluffes, Martoni, c'est pas celle-là.
J'avoue que la première partie, là, on découvre. En plus, il y a deux, trois. On s'est posé deux, trois fois la question sur des indications sur les cartes. C'est quoi ce symbole-là ? On se trouve assez vite. La petite carte de jeu est très bien faite.
Alors, il y a un système de réputation. Donc, si vous avez bluffé, que vous êtes fait avoir, vous perdez de la réputation. Si vous avez
très important la réputation.
C'est des points de victoire. Si vous avez accusé à tort quelqu'un, vous perdez également de la réputation. Par contre, si vous avez trouvé un bluff, là, vous en gagnez. Et ces points de réputation valent un point. Quand on voit le coût d'un coffre, ça devient assez
important. Oui, il y a des cartes, ça te dit, par exemple, si ta réputation est de 3 ou plus, tu gagnes 4$, si elle est moins, au lieu de 1$. Donc, ça peut être importe la montée. Ou de...
Et plus vous êtes de l'art, plus vous recrutez truands encore plus balèzes.
T'as l'impression qu'il y a plein de règles. Alors, il n'y a pas tant de règles que ça. C'est assez fluide, un tour de jeu. Mais effectivement, tu vois, tu découvres les cartes, les pouvoirs des personnages. On a chacun un chef de gang qui a des petits... On a deux cartes, ils ont des petits pouvoirs différents. Et puis ensuite, j'avoue que la rejouabilité doit être pas mal. Et puis, Koreko Tinicia, c'est un gars qui a de l'expérience. Et donc, on sent que ce n'est pas son premier jeu, le gars, quand même.
Voilà, couplé. Et puis, alors, si vous regardez en doré, vous pouvez voir un peu sur la... Au-dessus des westerns, des sortes de circuits imprimés
Le petit slogan, c'est tout en haut.
Pour une poignée de cartes, des milliers de possibilités.
Ouais. L'éditeur, c'est Unexpected Game, c'est bien ça ?
Si tu le dis, Unexpected Game, effectivement, un jeu de 2 à 4 joueurs. Alors ici, voilà.
Unexpected Game, c'est qui ? C'est correct. Il est auteur-éditeur, donc il est son propre éditeur. Et quand tu vois la qualité de la production, c'est un gars qui a une bonne petite réputation dans le monde du jeu de société.
Bah sur certains sites, ils mettent de 1 à 4, tu dois avoir une variante solo dans la règle, je pense.
Ou tu te bluffes toi-même.
Non,
je pense qu'ils font une grosse erreur.
Voilà, c'est un peu, à mon avis, tu dois avoir un petit Autobot.
C'est un peu comme on a joué à The Gang sans Dominique.
Donc, allez voir sur le site philibert.net.com. Il y a l'interview de l'auteur et c'est assez intéressant. Et on voit les designs et c'est assez intéressant d'avoir la genèse d'un jeu comme ça.
Vous avez d'autres actus, jeux de société dans votre poche, des choses que vous avez peut-être testées, des choses à venir qui vous intéressent. Pour ma part, j'ai dans ma liste, j'ai demandé à notre collaborateur qui est au-dessus d'une boutique de me réserver la réédition du prélude de Terraforming Mars qui était donc épuisé et vendu à un prix exorbitant plus cher que la boîte de base. La petite extension de 20 cartes. L'extension de Forêt Mixte.
Ça me parle.
On pose des arbres. Donc, c'est la deuxième, si je ne me trompe pas, la deuxième ou la troisième extension. Et il y en a un troisième et j'ai déjà oublié.
Bon, je suis plus pour les sorties des micro-games de chez Matago. Ils en sortent un tous les 15 jours, tous les mois, un truc comme ça.
Pas sur moi, mais
ça commence à être une usine à gaz tellement il y en a, mais au moins ça tourne assez bien. Et je crois que ça fait au moins un mois et demi, voire peut-être plus que j'ai pas encore acheté de jeu. Là, le sevrage se fait tout doucement, donc je pense qu'il y en a deux, trois
sorties. J'ai pris le dernier de chez... je l'ai pas pris, donc on en parlera une autre
J'ai trouvé, en fait, il y en a deux autres. Il y a l'extension du Château Blanc, mais version matcha. Donc avec du thé matcha, ça promet. Mais comme j'ai pas encore déballé le jeu, mais des fois c'est bien de tester le jeu tout de suite avec ses extensions, ça peut être sympa. Et un autre, est-ce que je vais le retrouver, de souvenir, le nom c'est Travel to Japan.
Let's go to Japan.
Et celui-là.
Le principe du jeu, c'est de, tu planifies ton voyage au Japon. Qui est très à la mode. Il y a plein de gens qui vont
à Tokyo.
Ils vont pas qu'à Tokyo, mais bon, c'est devenu tellement touristique. Et là, le principe du jeu, c'est que tu planifies ta visite au Japon, donc tu planifies ton voyage, etc. Et la boîte, elle est très sympa. Il y a une édition avec, il y a plusieurs éditions.
Graphiquement,
il faudra que tu m'envoies le lien, parce que peut-être que d'ici quelques mois, je ferai un petit vol vers cette contrée lointaine.
Comment il lâche ça, c'est du drop bomb.
Sinon, je peux pas lâcher le micro, il y a une perche.
Actu jeu CC, ça me rappelle que, alors j'avais prévu d'y aller, mais c'est pareil, ça va être compliqué. Bientôt, là, parmi les salons à venir, c'est un petit peu la saison des salons jeux société. Il y a Paris et Ludique qui revient, puisque l'année dernière, il n'y a pas pu avoir lieu. Ils avaient décidé de pas le faire à cause des Jeux Olympiques, ça devait être compliqué. Enfin bref, comme beaucoup de festivals qui ont été annulés ou déportés, ou etc. Donc Paris et Ludique revient, c'est le week-end du 5-6 juillet. Et c'est Pelouse de Reuilly, si je dis pas de bêtises.
Bon, Paris, donc tu y vas cette année ?
Non, trop de choses à faire par ici.
L'autre,
s'il fait aussi chaud qu'ici,
c'est pas encore sûr à 100%.
On va jouer au jeu et tu devras faire le voyage indiqué.
Ah ouais. On te un truc bien pourri.
Pour l'instant, c'est l'esprit des grandeurs, c'est les folies. Je m'arrête en Corée, je fais un road trip d'une semaine, je vais au Japon une semaine et je reviens.
Plus le temps passe, plus je vois de gens aller au Japon, etc. Et je vois, enfin, c'est blindé de touristes. Et même au Japon, on sait que le gouvernement japonais a mis le holà parce qu'il y a des endroits qui sont envahis.
Faut pas aller dans les grandes villes.
Même les petits villages déjà, maintenant.
Je comprends pas. Aller à Tokyo, pour moi, c'est.
Si, tu y passes. Parce que
c'est comme ceux qui vont à New York et qui disent la grande ville. Mais tu vas à Paris, c'est la même chose, même si c'est démesuré.
Et après, il faut pas aller dans les endroits. Même à Tokyo, tu peux aller dans des endroits où.
Au Japon, on va visiter des beaux petits villages, on va au pied du Mont Fuji.
Oui, un beau petit village où tu as 25 000 Instagrammeurs qui attendent leur tour pour prendre la même photo que des milliers d'autres ont pris avant et prendront après.
Moi, aux États-Unis, je veux pas de touristes. Je veux dans le New Jersey.
Exactement.
En plus, c'est vrai.
Pareil.
Non, mais après, faut pouvoir se permettre d'avoir une connaissance ou des réseaux sur WhatsApp, par exemple, des sociaux clubs, mais ça fait un peu bizarre de en dire ça, mais des personnes qui sont d'origine française et qui sont maintenant et qui travaillent au Japon et qui ont construit des réseaux pour accueillir les personnes qui sont pas forcément
et qui sont capables
fortes
de t'indiquer
langue, et qui peuvent t'indiquer
des endroits
pour te loger, pour avoir des bons traducteurs, des personnes qui peuvent t'accompagner, qui connaissent les endroits, pas forcément avoir un tour manager, mais au moins des personnes qui disent t'inquiète, si t'as besoin, un soir on se croise, on se boit une bière un sac à l'eau.
On est sur une émission là-dessus.
On discute.
Effectivement, les temples blindés de touristes du monde entier, ou alors il faut y aller à 5h du matin, ou alors il faut trouver un autre temple dans un petit village à côté qui est tout aussi beau.
Ça commence à être partout pareil. Je pense qu'on est beaucoup plus sur la planète et qu'il y a beaucoup de touristes maintenant.
Oui, puis ça devient tellement facile, et puis les réseaux sociaux ont pas arrangé, parce qu'effectivement c'est pas tellement que les gens y vont et ils sont pleins, mais effectivement j'ai vu des streamers qui filmaient et tu as 50 personnes, 50 couples qui attendent au même endroit devant le même tori ou la même statue, temple, pour se prendre avec la même photo Instagram que tout le monde.
Oui, en tenant la tour de Pise.
En disant, regardez, ils se filment devant un coucher, puis au vent tellement fougé, etc. Ils sont tout seuls dans le lieu. Non, puis tu tournes un peu la caméra, t'as 50 000 personnes, touristes, qui sont là, qui sont tous en train de prendre la même photo. C'est n'importe quoi.
Oui, mais ça, en même temps, tu as l'évolution de la technologie qui ont fait que maintenant, avec un bon backpack, tu peux streamer en live, tu peux marcher, tu peux aller pratiquement dans toutes les zones possibles et imaginables, alors qu'avant, tu n'avais pas de réseau au bout de 20 km autour d'une ville. Maintenant, c'est faisible.
Oui, donc, et on ne parle même pas.
Tu peux même streamer en haut de l'Everest.
Puis les touristes, c'est tellement n'importe quoi. Tu as des quartiers où j'avais eu des exemples de gens qui se plaignaient. Parce que, à Tokyo, par exemple, tu as des quartiers le quartier de geisha où tu as des gens qui sont. Tu peux encore trouver des maisons traditionnelles ou des gens qui se promènent en kimono ou des femmes habillées en tenue en kimono, c'est pas le bon terme. Mais puis, qui sont interpellés par des touristes et qui veulent les prendre en photo, enfin, quand ils demandent la permission encore. Mais on n'est pas des animaux, enfin, on n'est pas des attractions, quoi. On est des êtres humains, c'est notre vie. Je suis en train de. Voilà, c'est comme si quelqu'un venait ici, dans ton immeuble et te prenait en photo. Oh, regardez, quelqu'un qui va faire ses courses, etc. Mais mec, je suis juste en train de vivre ma vie, quoi. Je ne suis pas une attraction. Enfin, c'est... Enfin, bref.
Ouais, s'il y a une madame qui veut
bravo,
son attraction.
Bravo d'avoir lancé le sujet.
Oh, je le réanimerai un jour ce sujet. Je sens qu'il plaît bien. Oh, oula, autre hommage musical, ah, Dominique.
Et puis,
quoique. Attends, je calcule par rapport à la fin d'émission. On peut déjà faire l'agenda à venir, à moins que vous avez des sujets que vous souhaitez.
Bah, agenda, donc il y a le fameux, on va rappeler, hein, parce que c'est rendez-vous BD de Amiens, c'est du 7 au 22. Donc le prochain week-end, c'est le dernier week-end pour y aller. 21 à 22, c'est à Amiens, à la Halle Fraissinet, c'est gratuit, 10h, 18h. Et bah, du coup, j'ai pas le choix, il va falloir que j'y aille samedi ou dimanche prochain. Quoi d'autre ? Ah, bah, dans le même genre, des vagues et des bulles, c'est à Dunkerque. On n'est plus dans le même coin. Ça a commencé, c'est une exposition temporaire dans le musée maritime, qui est déjà un super musée à Dunkerque, sur le port. Donc c'est une exposition temporaire qui a commencé le 4 avril, qui se déroule jusqu'au 5 octobre. Donc c'est la bande dessinée maritime, la mer dans la bande dessinée, en gros.
C'est la fête de la musique la semaine prochaine, Dominique ?
Moi, j'appelle ça la fête à la musique. Parce que la musique, elle prend cher, et c'est sa fête.
Et la fête de la bière aussi, non ?
Pas pareil.
J'allais dire jouer en concert, mais après ton commentaire,
toutes les fêtes de musique que j'ai faites, que ce soit en tant que musicien ou
la musique fait sa fête. Hein.
En tant qu'écouteur libre, on va dire.
Oh mon Dieu.
Ouais, ils sont pas tous à jeun. Hein.
Ah bah oui, ça va de pair, surtout avec cette chaleur. Ah oui. Oui, vas-y, je continue à zioter l'agenda.
On va quand même le faire, ce petit hommage. Cette fois-ci, un autre artiste musical, mais plus dans la funk. Ici, Dominique, est-ce que tu vois de qui je parle ?
Tu parles de Sly Stone ?
Et effectivement.
Le leader de la... Donc, c'est Sly and the Family Stone, c'est ça ? Ouais. Alors je ne sais plus quel album j'écoutais, mais je crois qu'à un moment, je l'ai écouté pendant 3 mois, je l'ai écouté en boucle dans mon lecteur MP3, parce que j'avais redécouvert ça. Il est décédé, donc, le 9 juin, à quel âge ? À l'âge de 82 ans. Sylvester Stewart, Sly Stone, un des créateurs de la funk, quoi. Mais...
I want to take you higher. Ça te va ?
Okay, comment dire ? Ça va bouger. Des morceaux incroyables.
Take your mind.
Want to take you higher, Sly and the Family Stone.
Et puis je me rappelle de quand tu vas voir les clips ou les versions live. C'est très 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 coloré. Waouh, les costumes.
La bonne mode de l'époque.
Ah ouais, magnifique.
D'autres petites choses sur l'agenda,
ça,
Dominique ?
Ouais, non, mais ça me fait penser que j'ai un peu joué avec, avec l'intelligence artificielle et la génération d'images. Parce que j'ai vu quelqu'un sur YouTube, une vidéo qui faisait les fails de l'intelligence artificielle, et il a les recensés. Il y a plein de gens qui s'amusent à reconstituer un... En France, on n'a pas tellement ça, mais aux États-Unis, tu sais, les yearbooks, les livres de collège ou d'université, etc., où tu as les photos de tout le monde, et puis chacun met une petite citation de ta photo. Des gens qui s'amusaient à générer des trucs comme ça avec l'intelligence artificielle en demandant, parce qu'ils avaient perdu, j'ai retrouvé le yearbook de mon grand-père qui était en 1900, je sais pas combien, et le truc est généré, et là, des personnages ridicules avec des noms, mais c'est n'importe quoi. Grumpy, Pumpy, machin et tout. Bon, t'as Shrek, puis t'as un chien ou un chat dans les photos, et c'est trop marrant. Et je me suis amusé à générer des photos de classe. Genre, génère-moi une photo de classe des années 70, etc. Ouh, t'as des jolies tenues, hein. Ou génère-moi un album photo de genre de camping ou de pique-nique des années 70. Eh ben, t'as des bons pantalons de def avec tous les mecs sont barbus. Des fois, c'est l'intelligence. Les visages des bébés, faut pas regarder parce que c'est l'horreur. T'as même, je crois qu'il y a même des bébés avec des barbes 70 et tout. Et c'est hilarant à faire et ou générer des photos. Du coup, je m'amusais à générer une photo de classe des années 70 en Éthiopie. Et t'as des magnifiques pattes d'EF, etc. Mais après, j'ai dit, non, 2170. Et donc, j'avais la même chose, mais avec un peu futuriste. Ils étaient en classe avec des tableaux, des ordinateurs et tout. Et tu peux partir dans des lignes et il n'arrête pas. Quoi. Enfin, c'est un petit peu amusant de générer des trucs comme ça.
Alors, moi, je teste un bot qui est créé par un site qui est hugo.io. En gros, tu l'intègres à ton Discord et tu lui donnes une personnalité. Et donc, on lui a mis un truc pour qu'il soit un peu, qui dépasse un peu Ricky Gervais, tu vois, pour retenir l'ambiance.
J'ai déjà vu certains streamers le faire avec un peu sarcastique, pour rester poli.
Voilà. Et là,
il crash.
Il faut faire attention en live. Hein.
Et j'aime bien lui demander des articles et de générer des interviews, des commentaires, comme s'ils avaient été pris au micro. Et j'ai toujours des trucs incroyables. Et je trouve ça magnifique. D'aller pousser l'imagination de l'IA, des fois, on est surpris, on rigole bien.
Voilà. Ouais, mais il ne faut pas t'attendre à un vrai résultat. Tu t'amuses plus avec les fails qu'autre chose. Quoi.
J'ai promis une petite musique de fin en relation avec Dune. Est-ce que vous connaissez un groupe qui a écrit une chanson sur l'univers de Frank Herbert ?
Il y en a plein.
Pas personnellement, non.
D'ailleurs, une musique que Frank Herbert n'a pas très appréciée, soyons honnêtes.
Ah, c'est genre l'équivalent du Star Wars Holiday Special, mais pour Dune, c'est ça ?
En version musique.
Oh, ça peut être rigolo.
Est-ce que ça vous parle ?
Genre funk ? Oh merde.
Non.
J'ai vu l'image.
Moi, j'ai la chance, j'ai pas beaucoup vu l'image.
La chanson s'appelle To Tame a Land.
Donc, dompter un territoire, en gros.
Voilà. Et elle fait référence, donc, dans son texte, carrément, à Dune. C'est un petit groupe de métal, Iron-Médin.
Tout à fait.
Iron-Médin.
Iron-Médune
maintenant.
Iron-Médune, dans l'album Peace of Mind.
Qui est une bonne zik.
Alors, si tu ne le savais pas, ça fait référence à Dune. Voilà. C'est toujours bon à savoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Heureusement en France. Mmh. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ouais. Thank you.
the back.